VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver, Jacques Aristide, dans la capitale américaine. Merci d'être avec nous pour une nouvelle édition du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Les titres que nous allons développer ce soir, et c'est un lundi 29 juillet 2019.
Rencontre Monsieur Bédier s'aperçoit que la coalition qu'il avait passée avec Monsieur Ouattara en 2006 contre le président Laurent Gbagbo est une coalition qui a desservi la Côte d'Ivoire.
Eh bien oui, vous l'avez compris, rencontre inédite entre les anciens présidents ivoiriens Henri Konan Bédier et Laurent Gbagbo à Bruxelles, à un an de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Au Nigeria, interdiction d'un mouvement chiite radical après des manifestations meurtrières à Abuja. Au Soudan, au moins 5 manifestants ont été tués par balle à la veille des pourparlers pour finaliser un accord sur la transition. Aux États-Unis, le président Donald Trump critique un pasteur de la communauté africaine-américaine après des accusations de racisme. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économiques et sportives à venir dans 10 minutes. Militaires burundais de la mission de maintien de la paix en Somalie, l'AMISOM, ont été tués dans une attaque dans la région de Balad, à une trentaine de kilomètres de la capitale Mogadiscio. Cette attaque a été revendiquée par le groupe extrémiste Al-Shabaab. Le point avec Willy Eloge Kaneza à Nairobi.
L'attaque a eu lieu dans la matinée de samedi contre un convoi de militaires burundais en patrouille dans le district de Balad, à 36 km au nord-est de la capitale Mogadiscio. Après des échanges de tirs, les Shabab ont été repoussés. Des sources au sein du contingent burundais indiquent que 6 militaires burundais ont été tués sur le champ, dont le commandant en second du 53e bataillon AMISOM. 3 militaires ont été grièvement blessés, tandis que 2 autres sont portés disparus. Plusieurs effets militaires ont été endommagés. Sur son site, le groupe terroriste Al-Shabaab revendique l'attaque, arguant avoir brûlé 3 véhicules militaires et tué 10 militaires. Le colonel Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée burundaise, confirme l'attaque sans donner plus de détails. Toutefois, il promet de donner le bilan complet ultérieurement. Eloge Wikaneza, Nairobi, pour la Voix de l'Amérique.
Je vous le disais en titre, tête à tête aujourd'hui en Belgique entre les deux anciens chefs d'État ivoiriens, Henri Konan Bédier et Laurent Gbagbo, à un an de la présidentielle de 2020. Il s'agit de leur première rencontre depuis la fin de la crise post-électorale de 2010, qui avait fait plus de 3000 morts. Les deux anciens chefs d'État demandent la libération de tous les prisonniers politiques et militaires. Ils appellent également le gouvernement à procéder à une réforme profonde de la commission électorale. Henri Konan Bédier, qui avait apporté son soutien à Ouattara contre Gbagbo, veut désormais soutenir un candidat de son parti, le PDCI, l'an prochain. Nous y reviendrons dans la partie magazine tout à l'heure. Au Nigeria, le bureau du chef de l'État annonce l'interdiction du mouvement chiite radical MIN, après une série de manifestations meurtrières dans la capitale Abuja pour faire libérer son chef Ibrahim Zakzaki. Son procès a été ajourné à la semaine prochaine, et ce pour une nouvelle fois. Incarcéré depuis décembre 2015, il ne s'est pas présenté au tribunal de Kaduna aujourd'hui pour des raisons de santé. Le point avec notre correspondant Gilbert Tamba à Abuja.
C'est le deuxième report en un mois et aucune raison n'a été donnée. Mais un peu plus tôt ce matin, la police de l'État de Kaduna avait renforcé la sécurité dans la ville avant l'ouverture de l'audience de la haute cour qui devait statuer sur la demande du chef du mouvement islamique du Nigeria. Ibrahim Zakzaki, qui n'était pas au tribunal, demande l'autorisation de voyager à l'étranger pour se faire soigner. Plusieurs routes du centre-ville de Kaduna ont été fermées à la circulation. Au même moment, une haute cour d'Abuja a autorisé l'interdiction de l'organisation chiite dans le pays. Le président Buhari a déclaré dans un communiqué que son gouvernement devait agir contre le groupe chiite avant que la situation ne devienne incontrôlable. Le groupe des chiites n'a pas tardé à réagir, qualifiant cette interdiction par le gouvernement fédéral comme une grosse blague. Les affrontements entre les membres du mouvement chiite et la police ont fait plusieurs morts à Abuja.
Autre titre de l'actualité, nouveaux affrontements meurtriers au Soudan. 5 manifestants, dont 4 étudiants, ont été tués par balle aujourd'hui lors d'un rassemblement à la veille de la reprise des pourparlers entre pouvoir militaire et chef de la contestation pour finaliser un accord sur la transition. Yacouba Ouédraogo.
5 martyrs sont tombés sous les tirs de snipers lors d'un rassemblement pacifique, a déclaré le comité de médecins proche du mouvement de contestation, faisant état d'un nombre indéterminé de blessés. L'association des professionnels soudanais a affirmé que des balles réelles ont été tirées contre ce qu'elle a qualifié de massacre et a appelé aujourd'hui à de nouvelles manifestations. Les autorités ont annoncé un couvre-feu de 21h locales à 6h, pour une période indéterminée dans 4 villes de l'état du Kordofan Nord, dont Al-Obeid. Le 17 juillet, les généraux et les leaders de la contestation ont conclu un accord sur un conseil souverain composé de 5 militaires et de 6 civils chargés de diriger la transition pendant 3 ans. Ils reprennent les négociations demain pour finaliser leur accord. Depuis décembre, le mouvement de contestation a fait au moins 246 morts, dont 127 manifestants tués le 3 juin sur les lieux d'un sit-in à Khartoum, selon un bilan du comité de médecins proches de la contestation. De leur côté, les autorités parlent de 171 morts.
Quant à Mohamed Abdan Daglo, numéro 2 du conseil militaire au pouvoir au Soudan, il a rencontré aujourd'hui au Caire le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Les forces de Mohamed Daglo ont été accusées de la dispersion brutale d'un sit-in de manifestants à Khartoum en juin dernier. Le président égyptien a réitéré son soutien aux voisins soudanais et à ses militaires, d'après le porte-parole d'Abdel Fattah al-Sissi. Et puis en Algérie, l'instance qui doit mener le dialogue de sortie de crise, dont la légitimité est critiqué, appelle 23 personnalités à la rejoindre d'après un communiqué, mais 4 d'entre elles ont d'ores et déjà décliné.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans l'actualité américaine, le président Donald Trump accuse le révérend Al Sharpton, figure du mouvement de défense des droits des Africains américains, d'escroc qui déteste les Blancs et les policiers, dit-il. Cette nouvelle polémique intervient après des critiques du locataire de la Maison Blanche pendant le week-end contre un élu noir de la ville de Baltimore, Abdourahman Dia.
Al est un escroc. Un agitateur a dénoncé Donald Trump, commentant un tweet d'Al Sharpton qui annonçait son intention de se rendre à Baltimore, une ville que le président a qualifiée le week-end d'endroit très dangereux et sale, infesté de rats où aucun être humain ne voudrait vivre. Pour Donald Trump, ce révérend noir déteste les Blancs et les policiers. Ses critiques contre Baltimore et ses leaders ont provoqué un tollé dans l'opposition. La chef des démocrates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, les qualifiant de racistes. Ce matin, le président américain a repris ses attaques de plus belle. Baltimore, sous la direction d'Elijah Cummings, a les pires statistiques de crimes de la nation. 25 ans de bavardage, pas d'action, a écrit le locataire de la Maison Blanche. À la mi-juillet, Donald Trump avait appelé 4 élus démocrates du Congrès issus de minorités à retourner d'où elles venaient.
Toujours aux États-Unis, au moins 3 personnes ont été tuées et 15 autres blessées lorsqu'un tireur a ouvert le feu hier lors d'un festival de gastronomie en Californie. Le tireur a été abattu peu après le début de la fusillade. Il s'agit de Santino William Legan, un jeune homme de 19 ans. Des recherches étaient en cours pour retrouver un éventuel complice. Le président américain a ce lundi rendu hommage aux victimes. L'Iran affirme aujourd'hui que les États-Unis ont rejeté une proposition de Téhéran suggérant des inspection plus poussée de son programme nucléaire en échange d'une levée des sanctions par Washington qui, d'après le gouvernement iranien, refuse le dialogue. En Syrie, les forces du régime de Bachar al-Assad ont conquis Tal-Maleh et Jibin, deux localités près d'Idleb, après plusieurs semaines de combats intenses pour les reprendre aux rebelles et djihadistes. Depuis fin avril dernier, le pouvoir de Damas, soutenu par l'aviation de Moscou, bombarde sans répit la province d'Idleb et les régions voisines d'Alep, de Hama et de Latakia. La guerre en Syrie, déclenchée en 2011, a fait plus de 370 000 morts et déplacé plusieurs millions de personnes. Et puis en Afghanistan, les candidats à la présidentielle démarrent leur campagne dans la peur au lendemain d'une sanglante attaque contre les bureaux d'Amroullah Saleh, un colistier du président afghan Ashghan Rani, connu pour ses positions hostiles aux talibans. L'attentat d'hier commis à Kaboul, le jour même du début de la campagne pour l'élection prévue le 28 septembre prochain, a fait 20 morts et 50 blessés pour la plupart des civils, d'après un nouveau bilan publié aujourd'hui par le gouvernement. Et voilà donc pour les nouvelles qui dominent l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde. Et maintenant, condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Namik Talani.
En Centrafrique, le ministère des Mines dénonce un règlement de compte après un rapport accusant des sociétés minières d'avoir causé un désastre écologique dans le nord du pays avec la complicité de certains responsables. Le rapport, publié le 13 juillet, fait état d'une pollution du fleuve Ouham et de nombreux décès dans le village de pêcheurs, ce que conteste le ministère. Il reconnaît toutefois que les sociétés ont maladroitement rompu leurs obligations et promet des enquêtes. Un second rapport accuse 3 agents du ministère des Mines d'avoir reçu des pots de vin, dont l'attribution de permis miniers à des sociétés chinoises pour 40 millions de francs CFA. Le Nigeria confirme son engagement à rejoindre la zone de libre-échange conclue récemment en mettant en place un comité chargé de la mise en œuvre de l'accord et en promettant de nouvelles lois si nécessaires pour promulguer l'adhésion au pacte. En cas de succès, cet accord créera un bloc économique de 3,40 milliards de dollars et ouvrira la voie à une nouvelle ère de développement en Afrique. Pour terminer, Dana Gas, producteur d'énergie des Émirats Arabes Unis, a engagé la banque d'investissement Tudor Pickering Holt & Company pour le conseiller sur la vente de ses actifs égyptiens de plus de 500 millions de dollars, selon 2 sources proches du dossier. Les ressources d'exploration et de production de Dana Gas en Égypte se trouve sur la côte du delta du Nil, à l'exception du bloc 6 situé en Méditerranée orientale.
Et maintenant, pour un tour d'horizon de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouidraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Basket pour commencer avec le camp de la NBA au Sénégal, dénommé Basketball Without Borders.
Oui, cette 17e édition a été lancée hier à Sali sur les installations de la NBA Academy Africa qui se trouve en Bourg à environ 80 km de Dakar. Pour cette année, le camp regroupe les 60 meilleurs joueurs âgés de 17 ans et issus de 29 pays africains. Davantage avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué.
La NBA, ses stars et son top management se sont déplacés au Sénégal pour motiver les jeunes enfants africains amoureux de basketball. Le basket sans frontières, la NBA va en faire une réalité, comme l'affirme Amadou Galofal, vice-président de la NBA pour l'Afrique.
Notre objectif, c'est d'expandre tous nos efforts de développement du basketball à travers le continent.
Le directeur général de la NBA pour l'Afrique ajoute que la Ligue ambitionne d'organiser des matchs à Dakar.
Et puis encore, à partir de demain, on va amener le camp à Dakar Arena, qui est un joueur que nous voulons que le monde entier découvre.
Gourgui Sidien, pivot des Minnesota Timberwolves, estime que cette initiative permet au basketball africain de montrer ses jeunes talents.
Parce que nous avons
tous les pays n'ont pas l'opportunité d'accueillir cet événement et son lot de personnalités. Et c'est sûr que cela aura un impact car il y a des légendes, des joueurs de la NBA, des anciens, des managers de franchise. Bref, tout le gratin de la Ligue est là. Donc c'est une chance pour les jeunes et le basket africain.
Pour Takofal, le nouveau pivot sénégalais des Boston Celtics, ce camp de basketball de la NBA va offrir de nouvelles opportunités aux jeunes joueurs africains.
C'est une chose fabuleuse pour ces jeunes. Nous, on n'a pas eu cette opportunité. Moi, par exemple, j'ai commencé le basketball à 16 ans, alors qu'avec cette initiative, les jeunes ont l'occasion de pratiquer très tôt, ce qui permet de développer les bonnes aptitudes.
En plus des ateliers d'initiation et des matchs d'exhibition, la NBA va offrir un terrain de basket aux jeunes de la banlieue dakaroise. À Dakar, Seydina Abagué pour VOA Afrique.
Basketball toujours avec la victoire pour la RD Congo, championne de l'AfroCAN 2019.
À Bamako au Mali, la République démocratique du Congo a largement dominé le Kenya en finale à 82 à 61 lors de la finale de la toute première édition de l'AfroCAN, une nouvelle compétition de FIBA Afrique réservée aux basketteurs africains évoluant dans leurs championnats nationaux respectifs. Satisfaction pour l'entraîneur adjoint des Léopards locaux, Piero Ilunga.
On a joué vraiment à plus de sagesse et d'intelligence. On a joué dans le système d'unité d'abord dans le staff technique et puis une bonne transmission de systèmes de joueurs. Et voilà, on a avancé petit à petit et livré les 5 matchs, 5 victoires. Donc nous avons apprécié le niveau était très fort. On ne savait pas qu'en Afrique on avait des championnats si durs, on pensait que c'était juste l'Angola et la Tunisie. Mais voilà qu'on a découvert le Tchad, on a découvert le Kenya. Ils ont un très bon niveau local des athlètes.
Piero Ilunga, entraîneur adjoint des Léopards au micro de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide de retour avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. L'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié a rendu visite à Laurent Gbagbo à Bruxelles aujourd'hui. Leur première rencontre depuis la crise post-électorale qui avait fait près de 3000 morts. Henri Konan Bédié avait apporté son soutien à Alassane Ouattara au deuxième tour de la présidentielle de 2010. Il est resté son allié jusqu'à l'année dernière avant de passer dans l'opposition en vue de la présidentielle de 2020. Que peut signifier ce tête-à-tête entre les deux anciens chefs d'État ivoiriens? Idriss Fall a joint César Etou, directeur du journal La Voix Originale à Abidjan.
Cela veut dire que la Côte d'Ivoire va très mal et que ces deux anciens présidents qui se sont connus, l'un Henri Konan Bédié, ou dans le sillage du pouvoir avec Félix Houphouët-Boigny et l'autre toujours dans l'opposition, sont arrivés à la conclusion qu'il faut qu'ils se retrouvent pour soigner le pays.
Mais ne serait-ce pas une coalition contre nature parce que M. Bédié avait soutenu en 2010 M. Ouattara?
Une coalition n'est jamais contre nature. Une coalition vise toujours un objectif précis. Aujourd'hui, M. Bédié s'aperçoit que la coalition qu'il avait passée avec M. Ouattara en 2006 contre le président Laurent Gbagbo est une coalition qui a desservi la Côte d'Ivoire. Alors, chez nous, en Afrique et en Côte d'Ivoire particulièrement, on dit c'est le chemin qui conduit devant qui finit. Lorsque vous êtes dans un cul-sac, vous retournez tranquillement sur vos arrières pour mieux repartir dans le bon chemin. Je pense que c'est ce que le président Henri Konan Bédié est allé appliquer à Bruxelles en rendant visite au président Laurent Gbagbo.
Tous les deux, ils appellent à une réforme de la commission électorale indépendante qui était à la base de tous les problèmes en 2010.
Mais absolument. Vous savez, cette commission, il n'y a pas que le président Laurent Gbagbo et Konan Bédié qui appellent à sa réforme. L'Union africaine a appelé à sa réforme. L'ONU a pris une résolution pour recommander sa réforme. Sur cette commission, le pouvoir de M. Ouattara a perdu un procès devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Toutes les ONG de Côte d'Ivoire demandent la réforme profonde. Il n'y a que M. Ouattara qui continue de croire que cette commission lui convient. Les présidents Bédié et Gbagbo ne font que redire ce que toute la communauté internationale demande au gouvernement de M. Ouattara.
Dans l'esprit de 2020, les deux hommes participent à la vie politique ivoirienne depuis plus de 30 ans. Peut-on prévoir l'arrivée des jeunes, pourquoi pas Guillaume Soro, comme pourquoi pas Kakabé, comme pourquoi pas Charles Brey-Goudé?
Se présenter aux élections est une décision personnelle. Donc, laissons les uns et les autres prendre leurs décisions. Mais pour l'instant, ce qui préoccupe les Ivoiriens, c'est 1. La réconciliation nationale, un domaine dans lequel M. Ouattara a totalement échoué. 2. La réforme profonde de la commission électorale indépendante. Quand le décor aura été planté pour des élections apaisées, chacun avisera tout ce que vous citez. Si les conditions d'élection sont telles qu'on doit déboucher encore sur la guerre, c'est même pas sûr que jeune ou vieux, que chacun se présente. Ce sur quoi il faut travailler, ce sont les conditions de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire pour que les élections ne débouchent plus sur la guerre.
On écoutait César Etou, il est directeur du journal La Voix Originale. Il était en ligne d'Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
En République démocratique du Congo, le Front commun annonce une entente pour former un nouveau gouvernement. Cette annonce tombe au lendemain de l'élection d'Alexis Thambwe Mamba, ancien ministre de la Justice, à la tête du Sénat. Pour une analyse, Eddie Sango a joint Willy Kalengay, directeur du magazine Géopolis à Kinshasa.
Si l'on analyse de loin, on peut comprendre que l'équilibre a été fait. Que l'IDP se réjouit, c'est normal, parce que l'IDP a combien de sénateurs? Très peu de sénateurs. S'il y en a moins un qui se revendique de l'IDP et qui est au bureau, ce n'est que pour la forme une bonne chose. Il faut reconnaître aussi que beaucoup de gens qui avaient quitté l'IDP ne l'ont pas quitté formellement. Il y a souvent des désamours circonstanciels entre des personnes qui suivent une stratégie du moment, mais quand ils ont une certaine victoire, elle revient à la maison mère, comme on dit ici à Kinshasa. Voilà ce que l'on peut dire de cette élection. Elle a été discutée, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais d'une manière ou d'une autre, le choix opéré par l'autorité morale du FCC, je crois que ce choix-là a prévalu malgré qu'il y avait eu quand même un lever de bouclier et une ambition puissante et un combat très fort mené par l'adversaire Bahati.
Avec l'élection du bureau du Sénat, il y a aussi cette annonce de rapprochement ou de l'entente entre les FCC et les CACH au sujet du gouvernement. Qu'est-ce que cela augure-t-il d'après vous?
Je crois que les choses sont faites de manière à se synchroniser. Elles ont tellement fait longtemps, surtout l'élection, la désignation de l'équipe gouvernementale. Il fallait quand même qu'on mette un peu de la beauté dans la manifestation d'annonce. Il est vrai que la coalition CACH, FCC CACH, a peiné pour trouver des équilibres. C'est normal parce que au début du processus électoral, il n'avait jamais été question qu'il y ait une coalition. La coalition s'est imposée par le choix de la population. Les choix des électeurs ont imposé une coalition à des adversaires ténaces hier. N'oubliez pas que la campagne électorale avait commencé sur « au toit de là que je me mette ». Et que c'était ça aussi, et j'y suis et j'y reste. Ce combat était tellement puissant qu'on n'a pas pu, d'une certaine manière, préparer les esprits à une troisième vague. Cette troisième vague, c'est celle, justement, imposée par une majorité parlementaire et une majorité présidentielle. Alors, il a fallu du temps, et 6 mois, c'est, je crois, le temps nécessaire pour que les esprits, d'abord, comprennent que la donne a changé et que personne ne peut aller sans l'autre. Jamais FCC sans CACH. En tout cas, c'est ça la portion qui, historiquement, aujourd'hui, est en train de se faire aujourd'hui. Je crois que l'annonce va être une annonce qui va montrer qu'il y a eu entente, qu'il y a équilibre et que on peut maintenant passer à la question des hommes. Eh bien, évidemment, cette question des hommes va aussi certainement créer des déceptions, mais ça sera à l'intérieur des familles politiques, pas dans la nation entière qui attendait ce gouvernement avec beaucoup d'impatience. Les temps sont au travail et je crois que le peuple n'attend que ce gouvernement soit jugé à l'action.
Était au téléphone de Kinshasa Willy Kalangay, éditeur du magazine Géopolis.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Nous parlons du Niger à présent. Le chef de file de l'opposition, Hama Amadou, vit en exil depuis la dernière présidentielle, vous le savez. Il ne peut plus parler et agir au nom de son parti. C'est ce qu'a décidé un juge après une requête du président par intérim de ce parti, de Niamey, le reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Interprétant cette décision du juge rendue le vendredi 26 juillet dernier, le constitutionnaliste Amadou Boubacar Hassan indique qu'elle vient conforter la condamnation en 2017 de M. Hama Amadou dans l'affaire dite des bébés importés.
M. Hama Amadou risque justement de se voir opposer cette décision, sinon cette double décision du juge qui est constaté justement la perte de ses droits civils et politiques. D'abord, l'arrêt de la cour d'appel de Niamey de 2017 qui l'est condamné à un an et sur cette base, l'article 8 du code électoral, justement, ne lui permettait pas d'être électeur, a fortiori être éligible. Et aujourd'hui, cette déchéance vraiment conforte cette position et que, sur le plan juridique, M. Hama Amadou ne pourrait plus prétendre être candidat aux élections présidentielles de 2021.
Malgré cette implication juridique, Hama Amadou et ses farouches militants restent sur leur position. La présidentielle de 2021, ce sera avec eux.
On n'est pas surpris de la décision de la justice. La justice a décidé, on est d'accord. Mais maintenant, nous avons dit que Hama sera notre candidat. Et même si on nous met où qu'ils veulent, Hama sera notre candidat. Nous, au niveau de Lumana, nous allons régler le sort du président Noma. Parce qu'un membre de Lumana qui convoque un président de Lumana, donc c'est une faute grave.
Le sort de Omar Nouma a été justement réglé puisque dans l'après-midi du vendredi, plus de 2/3 des membres du bureau politique du parti ont décidé de désigner un autre intérimaire après avoir constaté, disent-ils, sa démission de fait en décidant d'assigner en justice le président du parti. Mais ce dernier ne l'entend pas de cette oreille.
C'est des gens que je peux moi qualifier de rebelles. Le matin, il y a une décision de justice qui me confirme intérimaire. Le soir, ils prennent une décision pour désigner un autre intérimaire en violation des textes. Ce n'est pas que je suis contre à moi. J'ai donné ma vie pour lui. Je me bats encore pour Mahamadou. Je me battrai pour lui, mais dans le respect de la loi. Parce qu'avant tout, la démocratie, c'est le respect de la loi.
En rappel, la décision du juge du vendredi dernier a été rendue sur requête de M. Omar Nouma, qui contestait une lettre envoyée par le président du parti à Mahamadou depuis son exil, mettant fin à sa fonction de président par intérim qu'il assure depuis le dernier congrès du parti tenu en 2014. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
La marmite politique américaine bouillonne, vous le savez. Eh bien, le deuxième débat de la primaire démocrate aura lieu à Détroit cette semaine en deux temps, soit mardi et mercredi. C'est en raison du nombre de candidats, 20 au total. Celui qui mène dans les sondages, Joe Biden, a promis d'être plus agressif face à la sénatrice Kamala Harris, qui doit confirmer son statut de présidentiable après avoir malmené l'ancien président, vice-président américain, en juin dernier. Un avant-goût avec Abdourahmane Dia.
En baisse, mais toujours en tête dans les sondages, l'ancien vice-président Joe Biden a, comme d'autres candidats, rendu visite à des organisations militantes noires. Les critiques du président Trump, que certains qualifient de raciste contre quatre parlementaires, sont toujours au cœur du débat public. Mais les démocrates sont eux-mêmes confrontés à un débat racial soulevé lors du dernier débat par la sénatrice de Californie, Kamala Harris, et on devrait s'attendre à d'autres confrontations lors du prochain. Aaron Cale, de l'Université du Michigan.
Pour beaucoup de candidats, c'est peut-être leur dernière chance pour marquer les esprits. Et pour cela, ils doivent se frotter aux favoris, être agressifs et les attaquer.
Joe Biden est également critiqué pour son vote en faveur d'une loi de 1994 sur la criminalité. Selon certains, cette loi est à l'origine de l'incarcération massive de personnes de couleur. Mais les électeurs ont aussi d'autres sujets en tête. Michael Trogott de l'Université du Michigan.
Je pense qu'ils doivent se focaliser sur des sujets comme la santé, l'éducation ou l'emploi.
Le sénateur de Vermont, Bernie Sanders, crédité de la deuxième place dans la majorité des sondages, a du mal à maintenir sa position de leader de l'aile progressiste du parti face à Elizabeth Warren, sénatrice du Massachusetts, qui est de plus en plus populaire au sein de la gauche. Mais Bernie Sanders n'entend pas lui céder un pouce.
Nous avons besoin d'une campagne présidentielle qui dynamise et excite le peuple américain.
Le débat télévisé offre l'opportunité aux candidats de s'adresser directement aux électeurs qui auront ensuite l'opportunité de battre campagne à travers le pays.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Et bien voilà, c'est ici que nous allons clore le monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph, que je remercie. À la console, Journiac Wojtek, que je remercie également. Et bien sûr, chers amis fidèles de la VOA, merci de nous avoir accueillis chez vous ce soir. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos nouvelles sur voafrique.com, voafrique.com également, sur notre page Facebook, la page Facebook de VOA Afrique. Et voilà, c'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne semaine sur VOA Afrique. À très bientôt. Take care.